Nous nous acheminons vers la fin
de notre série concentrée sur la Bible. Je vous rappelle que l'an dernier, nous avons examiné les fondements de notre assurance quant à la vérité, véracité de la Bible, que nous avons compris ce que voulait dire son inspiration divine, et nous avons aussi traité de la question du canon, c'est-à-dire des limites exactes de l'ensemble, qui doit être reconnu comme la parole de Dieu, comme l'Écriture sainte. Alors, en examinant ce que nous avions fait, les desiderata qui avaient été exprimés par les uns et les autres avant que nous engagions dans cette série, je me suis dit qu'il nous restait encore un grand sujet à examiner, celui de l'interprétation de la Bible, qui inclut, j'essaierai en tout cas de l'inclure, la question du regard critique sur la Bible que beaucoup portent sur elle. Et il me semble que nous avons besoin de deux séances pour en traiter, non pas d'une manière exhaustive, hein, bien sûr. Tout ce que nous faisons, c'est toujours introductif, c'est quand même toujours très bref. Mais pour en traiter d'une manière qui sera satisfaisante pour le travail que nous menons ensemble. Aujourd'hui, j'ai prévu que nous voyons les grandes lignes, les principes de l'interprétation biblique, et que la fois prochaine, je ne sais pas encore si ce sera décembre ou si ce sera janvier, ce sera annoncé plus tard, mais la fois prochaine, en décembre, s'il y a un institut biblique en décembre, nous appliquions ces principes à quelques situations particulières. Comment interpréter une prophétie, nous prendrons un exemple, une parabole, ce genre d'application particulière pour la deuxième séance. J'espère que ça peut vous convenir. Avant de commencer, je voudrais que nous lisions un texte biblique qui nous montre l'importance de l'interprétation biblique, comment elle se situe. Et après cette lecture, je demanderai à Mademoiselle Ramsamy de nous conduire dans la prière. Donc après que nous aurons lu dans le chapitre 8 du livre des Actes, les versets 26 à 40. Livre des Actes des apôtres, qui sont aussi les actes de Jésus-Christ par son esprit. Chapitre 8, verset 26. Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et le surintendant de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Et il s'en retournait, assis sur son char, en lisant le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et rejoins ce char !» Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à l'abattoir, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, son droit a été supprimé, et sa génération qui la racontera, car sa vie a été supprimée de la terre. L'eunuque prit la parole et dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelque autre ?» Alors Philippe ouvrit la bouche et, commençant par ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il ordonna d'arrêter le char, tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Quand ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, alors que, joyeux, il poursuivait son chemin. Quant à Philippe, il se trouva dans Azote, puis il évangélisa toutes les villes par lesquelles il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Nous prions Dieu ensemble. Que vaut-il mieux, à votre avis, se tromper sur le sens de l'écriture. Et suivre alors ce que l'on a compris, ce que l'on a en fait mécompris, ou bien lire avec justesse ce que l'écriture enseigne, bien le comprendre, mais s'écarter de la voie qu'on a reconnue comme la voie de la Bible. Que vaut-il mieux? Dans certains cas, ça peut revenir en pratique exactement au même. Prenez quelqu'un qui prend sa Bible, qui s'y cherche, et qui sincèrement croit que Dieu permet que l'on vive ensemble sans être passé devant Monsieur le maire. Parce que la Bible ne le dit pas de façon tout à fait expresse. Monsieur le maire, c'est pas dans la Bible. Alors, il y a des gens qui se mettent à lire la Bible, et puis qui disent, bon, Dieu me permet de vivre maritalement sans avoir contracté mariage selon les formes du droit français. Puis vous en avez d'autres qui discernent que dans la Bible, le principe du respect des autorités et du caractère public officiel de l'union de l'homme et de la femme est bien enseigné et que cela veut dire donc pour nous qu'il faut passer devant Monsieur le maire, mais qui disent, mais moi je peux en prendre à mon aise, et qui décide de vivre en concubinage. Ça revient au même, donc. L'un a bien compris, l'autre n'a pas bien compris. L'un suit ce qu'il a saisi, l'autre s'en écarte. Je crois que si on pose la question comme je l'ai posée au début, que vaut-il mieux? Il faut dire que c'est la première attitude qui déplaît le moins au Seigneur. Qu'au moins, il y a là une disposition de cœur qui respecte l'autorité de Dieu. Il y a erreur sur ce qu'il enseigne, mais au moins, selon sa conscience, la personne se soumet à ce qui vient de Dieu. Alors que dans l'autre cas, il y a une véritable rébellion. Et le fait d'avoir bien compris la Bible, en un sens, accroît la responsabilité même de la faute, de la transgression. Notons quand même que dans la pratique, on doit apporter parfois des nuances. Il peut y avoir beaucoup d'orgueil, beaucoup d'arrogance dans la conviction de celui qui dit « Moi, j'ai compris ce que veut dire la Bible. Moi, je sais. Je n'ai pas besoin de demander au pasteur, je n'ai pas besoin de lire les commentaires. Je vois ce que la Bible enseigne. » Il peut y avoir beaucoup d'arrogance dans la première attitude. Et dans la deuxième, la tonalité peut être moins celle de la révolte, bien qu'il y ait révolte au fond, que celle de la faiblesse. Oui, je sais bien que la Bible enseigne, mais je n'arrive pas à faire autrement, je suis trop faible. Nous savons bien que ça se passe comme ça aussi. Donc il ne faudrait pas dire l'orgueil est tout d'un côté et la droiture dans le désir de servir le Seigneur se trouve tout de l'autre. Non. Mais enfin, ça revient au même dans la pratique. Et cela nous fait ressortir l'importance de la juste compréhension de la Bible, d'une interprétation conforme à la vérité de la parole de Dieu. Si la Bible est la parole de Dieu, véridique, véritable, comme nous l'avons vu, revêtue de son autorité, si je ne comprends pas ce qu'elle me dit, si je le comprends de travers, à quoi cela me sert-il? C'est par sa vérité qu'elle m'éclaire. Alors elle a beau être la lumière, si un voile est sur mon cœur, comme dit Paul, c'est-à-dire mon organe de compréhension, hein, dans la Bible c'est l'intelligence qui est dans le cœur. Si je ne comprends pas, si j'ai un voile qui me masque cette lumière, si je suis aveugle quant à son vrai sens, ou myope, comme dit la seconde épître de Pierre, et non pas le mot « être myope » dans l'original. Eh bien, je suis toujours dans les ténèbres. Et je me trompe de chemin, je bute sur les cailloux. C'est parce qu'elle est la parole de Dieu, dans sa vérité, qu'elle est puissance de vie. Et si je me trompe, sa puissance de vie ne peut pas se développer dans ma vie. En fait, ce que je recueille, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est une parole que j'ai inventée, que j'ai plaquée sur le texte, qui n'est pas la parole de Dieu, si je me trompe. parce que c'est pas ce que Dieu a dit. Donc vous voyez l'importance de la question de l'interprétation. Nous ne pouvons pas dire, nous avons la Bible, ça suffit, la question d'interprétation c'est pour des théologiens, c'est pour des gens qui cherchent midi à 14h ou qui sont tout le temps en train de couper les cheveux en quatre. Non, non, nous ne pouvons pas faire autrement que de poser la question de la juste interprétation de la Bible. Elle compte de manière vraiment déterminante. Et ce qui, dans la Bible, nous le prouve, c'est précisément l'opposition entre Jésus et les chefs juifs, les docteurs de la loi de son temps. Ils étaient d'accord sur l'autorité de la Bible. Ils étaient d'accord sur la parfaite vérité de tout ce que nous appelons l'Ancien Testament. Il n'y a jamais de controverse à ce propos. Mais le drame a été que le vrai sens de la Bible était comme étouffé, comme réprimé par toute la tradition de ces chefs juifs et qu'ils ne pouvaient plus voir. Un voile était sur leur cœur. Et après Jésus lui-même, ce sont les apôtres, enseignés par lui, qui ont dû s'opposer à l'interprétation de la Bible qui était celle du judaïsme. C'était une question d'interprétation de la Bible que la grande opposition entre le judaïsme et le christianisme. Et ça dure jusqu'à nos jours. Encore aujourd'hui, c'est une question du sens à trouver de tout l'Ancien Testament. Et puis, autre illustration historique de l'importance de la question, la multiplication des sectes. Beaucoup de sectes, au moins, ont la Bible en main. Ils s'y réfèrent. Mais parce que le sens de la Bible n'est pas correctement perçu, ces sectes entraînent de pauvres âmes sur des chemins de perdition, les emberlificotent dans le mensonge. Donc vous voyez à quel point il faut que nous prenions vraiment de face et très au sérieux la question de l'interprétation. Alors, quelques précisions sur les mots que nous employons. Je les ai utilisés, mais je ne les ai pas encore expliqués. Qu'est-ce qu'interpréter ? Interpréter, c'est tout bonnement traduire. Il faut bien se rendre compte que c'est pas plus sorcier que ça. Un interprète, c'est quelqu'un qui redit dans une autre langue quelque chose qui a été dit dans une première langue. Nous avons un ancien étudiant de notre faculté qui a fait des études d'interprétariat, qui va maintenant travailler avec le Parlement européen, qui s'appelle Martin, c'est un Hollandais, et maintenant il est polyglotte, il a fait des études d'interprétariat, il va être interprète officiel. Et les discours qui seront énoncés en allemand, il va les traduire en français ou en anglais. L'interprète, il dit la même chose dans une autre langue. Et l'interprétation de la Bible, en un sens, c'est ça. C'est une activité de traduction. Il s'agit de dire le sens de ce qui est dans le texte à quelqu'un d'autre, éventuellement à soi-même, de façon que ce soit mieux compris. Parce que très souvent, quand nous ne comprenons pas quelque chose qui est dit, il suffit qu'on nous change le langage, qu'on passe à une autre façon de le dire pour que... Ah oui, j'ai compris. Voyez, redire avec d'autres mots dans un autre langage la même chose facilite la compréhension. Et le rôle de l'interprète, c'est de faire cette transition, ce passage-là. Alors, j'ai dit d'une langue à l'autre, mais aussi d'un langage à l'autre. Parce que ce qui vaut de l'anglais au français, par exemple, vaut aussi entre deux façons de dire en français. Il y a aussi interprétation, traduction, quand il y a une chose dite d'une certaine façon en français, et qu'en français encore, mais en employant d'autres mots, une autre façon de présenter, on le dit d'une façon plus facile à saisir. Et le rôle de l'interprète, c'est celui que Philippe a joué auprès du ministre de la reine d'Éthiopie. Ce ministre montre une magnifique lucidité et humilité à la fois. D'ailleurs, ça va souvent ensemble. Comprends-tu ce que tu lis? Comment est-ce que je pourrais si quelqu'un ne me guide? Et Philippe lui explique dans un autre langage, plus développé aussi, ce qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe. Tout s'est passé en grec, là, il parlait certainement grec. Vous savez, le grec à l'époque était la langue de presque tout le monde dans l'Empire méditerranéen, surtout le pourtour de la Méditerranée. Alors ça s'est certainement passé en grec. Et Philippe lui dit, mais dans un autre langage, toujours en grec, ce qui était le sens du passage d'Ésaïe que l'unique éthiopien lisait dans traduction grecque déjà, mais qu'il ne comprenait pas. Philippe a joué le rôle, donc, de l'interprète. Mais alors je dis, l'interprète, donc, dit dans un langage qui permet de mieux comprendre. Mais qu'est-ce que comprendre? Qu'est-ce que comprendre? C'est une notion tellement élémentaire que nous avons de la peine à l'expliquer. Vous savez, plus c'est fondamental, plus c'est vraiment quelque chose que nous pensons tous les jours, comme à tout moment, plus nous avons de peine à l'expliquer, quand on nous demande. Mais enfin, on peut y arriver quand même. Et je dis que comprendre, c'est saisir le sens défini par quelqu'un d'autre. Quelqu'un dit quelque chose sur quelque chose, j'ai compris si je reçois le sens que cette personne a voulu me communiquer. Le sens, c'est celui qui parle, ou qui écrit, qui envoie le message, qui le détermine. Et comprendre, c'est une activité de réception. Je reçois le sens qu'il a défini. Alors, il y a deux petites complications qui s'ajoutent, mais il est intéressant de les signaler à propos de cette idée même. Qu'est-ce que comprendre? La première dit que c'est pas seulement recevoir, ou plutôt recevoir est une opération déjà un peu complexe. D'une part, quand je comprends, je reçois ce que l'autre a pensé et dit, mais d'autre part aussi, je l'intègre dans ma propre vision des choses. Je le situe dans ma vision du monde, je vois et je dis c'est vrai ou c'est pas vrai, ça doit être un peu corrigé, j'ai vraiment compris l'autre. Si, j'apprécie aussi ce qu'il dit, selon la vérité. Vous voyez, il y a deux moments qui se distinguent à cet endroit. C'est recevoir, mais recevoir d'une manière responsable, avec une sorte de reprise. Et ça crée une petite dualité, c'est bien de se le rappeler. Tout de suite, j'annonce que le propre de la compréhension de la Bible, c'est que celui qui lit soumet son jugement. Il sait que c'est la vérité. Et lorsqu'il essaye d'insérer ce qu'il a compris dans sa vision du monde, si ça ne colle pas, c'est sa vision du monde qu'il faudra changer. Et non pas dire, c'est pas tout à fait vrai. Mais ça, c'est le propre de l'interprétation biblique. Avec les autres personnes, nous pesons, nous disons, oh, c'est quelqu'un qui a d'autorité, mais quand même, c'est pas la vérité absolue. Avec la Bible, c'est la vérité absolue, vous voyez. Donc ça, c'est une première chose à souligner. Une deuxième chose à souligner, c'est qu'il y a un très puissant courant dans le monde profane et religieux aujourd'hui qui récuse, qui refuse ce que j'ai dit, qui paraît tellement de bon sens, que comprendre, c'est recevoir le sens que quelqu'un d'autre a défini. On nous dit, mais non, le sens, c'est celui qui reçoit, qui le fait, qui le produit, qui le remodèle. Et donc, il n'y a pas un sens, mais chaque génération trouve un sens nouveau, chaque lecteur même trouve un sens nouveau, ça c'est la vérité pour lui, voilà ce que ça veut dire pour lui, et c'est la fécondité, c'est la liberté de l'interprétation. Beaucoup de gens tiennent ce discours. Et je voudrais le dénoncer, mais en expliquant où se trouve sa séduction. Parce que les erreurs vraiment dangereuses sont les erreurs qui ont un pouvoir d'attraction, qui sont vraiment séduisantes. Quelle est la séduction? La séduction, c'est que c'est, je pense, au moins en partie vrai, ce que je viens de résumer, quand il s'agit d'œuvres d'art considérées comme des œuvres d'art. Bon, il me semble qu'effectivement, on a le droit au moins de dire ce morceau de musique, pour moi, il veut dire ça. Et puis quelqu'un d'autre, pour moi, il veut dire ci. Je le reçois autrement. Et qu'on interprète de façon diverse, qu'on comprenne de façon diverse, qu'on donne des sens divers à une œuvre d'art, ça paraît légitime. Les grandes œuvres d'art semblent capables d'éveiller des compréhensions différentes dans des situations culturelles extrêmement variées à travers les âges, à travers les millénaires. Alors que quelqu'un comprenne la Vénus de Milo comme moi, puis quelqu'un d'autre autrement, ça paraît légitime. Pour l'œuvre d'art, ça paraît légitime. Le mensonge, le glissement pernicieux, je crois, arrive quand on passe de l'œuvre d'art à la parole. Lorsqu'il s'agit d'une parole dont la valeur vient de ce qu'elle exprime, celui qui a parlé, alors là, le sens n'est pas livré au lecteur ou à l'auditeur pour qu'il en fasse ce qu'il veut. Là, il devient très très important. Si c'est le Seigneur qui parle et qui commande, c'est pas à moi de dire « Oh, mais ça, ce commandement, pour moi, il veut dire ça, pour moi, il veut dire ça. » Et puis, non, c'est bafouer complètement l'autorité du Seigneur, si on dit ça. Oui. Parce que c'est une parole qui a sa valeur comme parole de la personne qui a parlé. Et alors, comme la Bible est aussi une œuvre d'art, mais elle est d'abord une parole, mais comme elle est aussi une œuvre d'art, vous voyez la séduction. Ce qui peut être vrai, dans certaines limites, on peut encore discuter, mais d'une œuvre d'art, ça a l'air de coller aussi pour la Bible. Eh bien, des gens se laissent attraper. Mais je crois qu'il importe fort que nous maintenions que l'interprétation de la Bible doit chercher à permettre la compréhension du sens que Dieu a voulu y mettre par l'auteur humain qui l'a rempli de son esprit. Mais vous voyez, il fallait préciser les choses dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Alors, ces points étant élucidés, j'espère que ça suffit, il faut déterminer maintenant pour nous ce qui peut guider l'interprétation. Comment comprendrai-je si quelqu'un ne me guide, dit le nuque éthiopien. À la question du guide de l'interprétation, je pense qu'il y a trois grandes réponses inadéquates, c'est-à-dire qui ne conviennent pas, bien qu'il y ait chaque fois une parcelle de vérité, mais déformée. Et puis, il y a une réponse qui est celle que je veux vous proposer, qui, je crois, correspond à la foi évangélique. Alors, première grande réponse, c'est la réponse dite de l'illuminisme. Il s'agit en fait de trouver le guide de l'interprétation dans une révélation complémentaire. Qu'est-ce qui va me guider pour que je comprenne bien la Bible? Mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va me révéler le sens de la Bible. Je vais lui demander et il va m'apporter la révélation que ce texte-là veut dire ça. C'est une solution qui est a priori extrêmement attrayante. Là aussi. Parce qu'il y a une parcelle de vérité. Comme nous allons le souligner, le Saint-Esprit est indispensable à la juste compréhension de la Bible. Et donc doit être pour nous le guide de l'interprétation à beaucoup d'égards. Sans le Saint-Esprit, je crois que la Bible est vraiment sur ce point tout à fait claire et nette, il n'est pas possible de bien comprendre la vérité de la Bible. Les choses de Dieu sont une folie pour ceux qui périssent, qui n'ont pas le Saint-Esprit. L'homme qui en est réduit aux seules ressources de son propre psychisme, intelligence comprise, hein, l'homme appelé psychique par le deuxième chapitre de la première épître aux Corinthiens, ne connaît pas les choses de Dieu, il ne peut les connaître. Et donc le Saint-Esprit est effectivement tout à fait indispensable, et il est question de l'illumination des yeux de notre cœur. Le cœur, c'est notre intelligence, pour comprendre. L'illumination des yeux de notre cœur pour que nous puissions bien comprendre la Bible. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Donc, ça, c'est la parcelle de vérité. C'est vrai que le Saint-Esprit est nécessaire. C'est vrai que nous avons besoin de l'illumination du Saint-Esprit pour comprendre. Mais pourtant, la solution illuministe est une solution inadéquate. Finalement, elle fourvoie ceux qui s'y arrêtent. Car si le Saint-Esprit illumine les yeux de notre cœur, ce n'est pas une révélation supplémentaire qui vient s'ajouter à la Bible elle-même. D'ailleurs, il n'y aurait là aucune raison de s'arrêter. Parce que pour bien comprendre la révélation du Saint-Esprit, il faudrait encore une clé de compréhension, il faudrait une nouvelle révélation, etc. On recule à l'infini. Et puis, de toute façon, c'est contraire à ce que la Bible nous dit. La foi a été transmise aux saints une fois pour toutes. Le fondement a été posé. Le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et le processus de la révélation, pour tout ce qui est donc, fondement de notre foi, en dehors de quelques questions de vocation personnelle, individuelle, tout cela a été posé et s'est achevé. Il n'y a pas de révélation supplémentaire qui s'ajoute. Faire jouer au Saint-Esprit le rôle de pourvoyeur de révélation supplémentaire, pour nous aider à comprendre, c'est en fait s'opposer aux perspectives de la Bible. Et c'est extrêmement dangereux. Parce que, où est le contrôle à ce moment-là? Quelqu'un dit, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit, j'ai eu une révélation, j'ai eu un songe, je suis sûr que c'est le sens du verset. Mais qu'est-ce qui garantit que ce n'est pas une ruse du cœur humain? Notre cœur humain, notre inconscient comme notre conscient, sont capables de fabriquer bien des choses. Et aussi des rêves, la Bible dit bien qu'il y a des rêves qui sont produits simplement par des mécanismes humains, et des hallucinations, et des choses qui sont très sensationnelles. Tout ça, ça peut être produit par notre psychisme, pour ne pas parler encore des démons qui peuvent toujours interférer aussi. Qui peut contrôler? Cette voie de l'illuminisme est extrêmement dangereuse parce qu'il n'y a pas de contrôle. Et les fruits par lesquels on peut tester en partie les esprits, souvent ils se manifestent un peu tard. Et d'abord, un esprit de mensonge peut avoir l'air de porter des fruits positifs. Satan se déguise en ange de lumière. Alors, la solution illuministe est très très dangereuse et elle a joué tout particulièrement dans la multiplication des sectes dont je parlais. Pratiquement chaque fois à l'origine d'une secte, il y a quelqu'un qui a pensé avoir une révélation particulière ou une illumination spéciale, lui disant le sens de l'écriture, se rajoutant donc à l'écriture, et du coup il n'avait plus besoin de raison, il n'avait plus besoin d'études, il savait, parce que le Saint-Esprit lui avait révélé. Et quand on étudie ces mouvements illuministes dans l'histoire, certains se sont égarés très loin, d'autres moins loin, mais on s'aperçoit qu'il y a pratiquement toujours des gens qui, au début, ont été très, très vivement aidés, très impressionnés par la personnalité rayonnante de celui qui disait avoir reçu la révélation. Quand on se trouve face à, ça m'est arrivé déjà, à un illuministe, on s'aperçoit qu'il y a des tas de gens qui disent, ça doit être de Dieu, parce que c'est vraiment une personnalité très remarquable, et puis ça m'a fait du bien, etc. Et c'est quand on étudie un peu l'histoire, et qu'on se rend compte qu'il y en a eu des centaines et des centaines et des centaines dans l'histoire, et qui n'ont pas été d'accord, et qui ont produit des mouvements qui sont partis dans tous les sens, qu'on se rend compte que non, ça peut pas être ça. La voie illuministe est une voie de garage qui fait jouer à l'illumination du Saint-Esprit, de garage encore, non, souvent c'est pas dans le garage, c'est dans le fossé qu'elle conduit. Est une voie finalement funeste, parce qu'elle fait jouer au Saint-Esprit un autre rôle. Moi je dirais que la nécessité du Saint-Esprit que nous devons reconnaître, elle est double, mais elle n'élimine pas du tout la nécessité d'étudier à fond, de bien voir ce qui est écrit, de comparer, etc. Mais cette nécessité est double. Elle est double parce que nous sommes tordus, l'intelligence obscurcie par le péché. Donc il faut que Dieu chasse les ténèbres de nos conceptions erronées des choses, nos préjugés, nos attitudes orgueilleuses. Nous avons besoin d'être guéris de notre aveuglement ou myopie au moins naturel, et c'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit. Il ne nous dit pas voilà ce que veut dire le texte, il nous guérit le regard pour que nous puissions voir ce qui est dans le texte. Et alors là, il y a du contrôle, parce que alors nous pouvons montrer, c'est bien dans le texte. Et puis la deuxième façon dont le Saint-Esprit se montre indispensable, c'est en nous faisant éprouver ce dont parle le texte. Parce que pour bien comprendre, il faut savoir ce dont il s'agit. comment parler à un aveugle congénital, qui est aveugle de naissance des couleurs. Comme il n'a aucune expérience des couleurs, il ne sait pas, vous lui dites du rouge, du vert, il essaye peut-être d'imaginer quelque chose en rapport avec les sons qu'il entend, mais il ne peut pas vraiment comprendre ce dont il s'agit. La même chose pour les choses de Dieu. Bien sûr, la Bible nous parle aussi de réalité terrestre, dont tout le monde a l'expérience. Alors là, tout le monde peut comprendre. Mais les choses de Dieu, de notre salut, c'est seulement le Saint-Esprit qui nous les fait goûter, qui nous en donne une connaissance expérimentale. Et pour que nous comprenions donc ce dont il s'agit quand il en est question dans la Bible, nous avons besoin de cette expérience du Saint-Esprit. Autrement, c'est comme des mots vides. Donc c'est pour ça que le Saint-Esprit est indispensable. Mais vous voyez, il n'ajoute pas une sorte de super révélation à la révélation de la Bible qui nous dirait comment lire la Bible. Ce n'est pas là son rôle. Alors deuxième voie funeste, mais qui aussi a sa parcelle de vérité, celle qui met l'accent sur le magistère d'une institution. Alors le mot magistère, ça veut dire le rôle du maître. La solution du magistère institutionnel, c'est de dire, il y a une institution, une structure permanente, qui est censée avoir été établie par Dieu, qui a le rôle de maître, de maîtresse, qui est chargée de dire quel est le sens de la Bible. Le mot, c'est le mot technique qu'on emploie dans l'Église catholique romaine. La conviction catholique romaine, c'est que l'Église est cette institution que Dieu a fondée en lui donnant toute une structure hiérarchique de responsables doctrinaux, et que c'est à cette structure hiérarchique qui culmine dans le rôle du pape comme docteur universel de tous les chrétiens, pasteur universel de tous les chrétiens, souverain pontife. C'est le rôle de cette institution de dire le vrai sens de la Bible. Magistère. Il y a une encyclique qui, je crois, était de Jean 23, qui s'intitule « Mater et magistra », mère et maîtresse. Maîtresse au sens donc du magistère. C'est une façon de désigner l'Église. L'Église a ce rôle magistériel, et l'Église est représentée par sa hiérarchie, en l'occurrence. Alors souvent, l'idée de tradition est jointe à celle de magistère. J'ai préféré mettre l'accent sur le rôle magistériel de l'institution, parce que on nous dit la tradition. Il faut comprendre la Bible à la lumière de la tradition de tous les docteurs de l'Église qui se sont exprimés sur son sujet de siècle en siècle. Et il ne faut pas donc interpréter autrement que selon la grande tradition de l'Église. Oui, mais qui dit quelle est la grande tradition de l'Église? Qui situe les docteurs? Parce qu'il y en a qui n'ont pas été d'accord au fil des temps. Finalement, c'est l'institution. Donc, l'autorité d'interpréter, elle échoit, au bout du compte, au magistère institutionnel. Et je crois que les catholiques en seraient d'accord. Alors, la parcelle de vérité. Parce que j'ai dit, il y a une parcelle de vérité. La parcelle de vérité. C'est que, en effet, Dieu a donné à son Église des docteurs. Mais c'est pas pour rien. Dans la diversité des dons qu'il a donnés, il en a doué certains pour qu'ils aident davantage leurs frères et sœurs à bien comprendre le sens de la Bible. Ou alors, ça n'a pas de sens d'avoir des docteurs dans l'Église. C'est bien dit. Bon, je crois que Dieu m'a donné un tel ministère, n'est-ce pas? Donc, si je vous parle, c'est dans l'effort pour remplir ce service. Et il est vrai que la tradition, c'est pas un mot péjoratif. Nous ne devons pas mépriser tous ceux qui nous ont précédés, tous nos aînés dans la foi, et même père et mère spirituels, et tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont laissé, ça a du prix. Nous sommes très ingrats et sots si nous faisons comme s'ils n'avaient pas existé et que nous méprisons en quelque sorte leur héritage. Non, c'est bien, c'est vrai, c'est bien. Mais le grand problème, c'est celui de l'autorité ultime attribuée à ces docteurs Et dans le cas du catholicisme au docteur suprême, qu'est le pape, c'est l'autorité absolue donnée à cette tradition comme elle est définie par le pape. Parce que ça revient à surimposer une autorité humaine à l'autorité de la parole de Dieu, et en disant toujours, la Bible est la parole de Dieu, elle est pleinement souveraine, en fait, de la museler et de l'étouffer sous la tradition et les décisions humaines. C'est exactement ce que faisaient déjà les pharisiens au temps de Jésus. Et Jésus, au chapitre 15 de l'évangile de Matthieu, dit qu'ils annulent la parole de Dieu. Oh, ils ne pensaient pas le faire, mais par leur tradition, par toutes les explications qu'ils ajoutent au commandement, et qui en fait annulent l'autorité du commandement. Jésus a reproché à la tradition de se surimposer, et comme une sorte de bâillon à la parole de Dieu lui-même. Le risque est toujours là, et je pense qu'on peut dire que l'histoire l'illustre assez. Nous sommes bien obligés de dire, au moins sur certains points, que au nom du magistère, on a fait dire à la Bible des choses qui vraiment, non. Dès qu'on cesse de reconnaître ce magistère comme un pouvoir absolu, comme une autorité absolue, on se rend compte. Tout ce qui est attribué à la Vierge Marie, la mère de notre Seigneur, que nous disons bien heureuse, nous aussi, n'est-ce pas? Mais tout ce qui lui est attribué, mais ce n'est pas dans la Bible du tout, et ça a été rajouté à la faveur d'un indice. Simplement parce que Jésus, au moment de mourir, confie Marie à Jean en disant « Voici ta mère » et puis « Mère, voilà ton fils » ou « Femme, voilà ton fils » dit Jésus à sa mère, à ce moment de la crucifixion. Oui. Simplement parce qu'il y a cette toute petite chose, toute la doctrine de la maternité spirituelle de Marie à l'égard de l'ensemble de l'Église, de tous les chrétiens, le magistère nous dit que c'est fondé, que la Bible enseigne ça. Et il y aurait d'autres illustrations qu'on pourrait donner aussi dans l'élaboration de la mariologie. C'est l'illustration du fait que lorsqu'on attribue une autorité ultime, qui ne peut plus être récusée, contre laquelle on ne peut plus faire valoir ce que dit la Bible, parce qu'on dit « Ah non, mais la Bible, vous ne savez pas ce que ça veut dire, c'est seulement le pape qui peut vous le dire. Oui. » Alors, on est vulnérable à toutes les dérives. On se met à rajouter à la Bible ce qui n'a pas du tout son fondement dans la Bible. Cette question du magistère a été bien sûr très fortement discutée au moment de la Réforme. La Réforme au XVIe siècle, c'est peut-être d'abord la réaction de gens qui ont été saisis par la parole de Dieu à tel point qu'ils se sont rendus compte que non, l'Église avait cessé de rester dans le droit fil de la parole biblique, et Luther a été obligé de dire que, et non, les conciles, comme le pape, pouvaient errer, ils n'étaient qu'humains, et que la parole devait être une reine au-dessus de cette autorité. Et nous sommes, je pense, les héritiers de cette libération par rapport à la tutelle du magistère ecclésiastique institutionnel. Et Luther a dit, c'est dans les articles de Smalkald, qu'en fait c'était de l'illuminisme. Seulement, au lieu d'être l'illuminisme d'un prétendu prophète qui tout à coup se lève en disant « j'ai la révélation de ce que veut dire le texte », c'est l'illuminisme de tout un système. C'est l'illuminisme du pape comme expression suprême de ce grand édifice. Oui. Mais, en fait, ça revient au même, sous prétexte d'assistance du Saint-Esprit, parce qu'il considère que c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Le pape, là encore, fait comme si une révélation spéciale était accordée à l'Église, en plus de la Bible, pour dire le sens de la Bible. Ce qui permet, en fait, d'étouffer le sens de la Bible, au moins sur certaines questions. Troisième voie, celle, j'ai eu un peu de mal à formuler, je dirais de la supériorité critique. C'est celle qui correspond au mouvement de la pensée moderniste et aussi postmoderniste aujourd'hui, où l'intelligence humaine du lecteur est considérée comme apte à la critique de la Bible. Et je dis supériorité critique parce que c'est critique dans un sens qui exalte le jugement humain au-dessus de la Bible. la raison humaine, se penchant sur la Bible, on peut vraiment dire se penchant parce que c'est de plus haut, se penchant sur la Bible, se considère le droit de trier dans la Bible. De dire ça c'est vrai, ça c'est faux. Ça c'est pour autrefois, maintenant c'est pour aujourd'hui, etc. C'est ce qui accompagne le mouvement qu'on appelle très classiquement. Ça a vraiment démarré très fort au XVIIe siècle, puis ça a explosé, ça a gagné le monde entier au XIXe siècle. Ce mouvement qu'on appelle la critique biblique. Le mot critique vient du verbe juger en grec. L'activité critique, c'est l'activité qui est un exercice du jugement. Alors il faut bien dire que c'est un mot piège. Qu'il y a certains évangéliques qui l'emploient en disant « nous aussi nous sommes critiques ». Et dans le sens où ils emploient le terme, il n'y a pas d'objection à avoir, je suis tout à fait d'accord. Parce que le mot critique peut vouloir dire aussi « je ne suis pas un béni oui-oui, je ne gobe pas tout et n'importe quoi ». Je ne me prends pas simplement ce qui vient de la tradition, on a pas une tradition évangélique aussi, mais j'examine, j'essaye de juger, j'essaye de m'informer au maximum. Si on emploie ce mot dans ce sens, alors moi je dis forcément d'accord. Je pense que cette attitude critique-là, où on exerce le jugement, est biblique. Paul dit, je vous parle comme à des hommes intelligents, jugez vous-même ce que je vous dis. Dans la première aux Corinthiens, au chapitre 10. Donc il y a des évangéliques qui disent « Nous aussi, nous sommes critiques ». Dans ce sens-là, c'est vrai, et alors nous pouvons suivre. Mais là où le bas blesse de nouveau, c'est là où le problème surgit, c'est celui de l'élévation de ce jugement humain au-dessus de l'Écriture. De telle sorte que l'Écriture n'est plus souveraine, mais une instance en dessous. Même si on lui montre encore du respect, il y a des gens qui aiment la Bible, mais... le jugement est élevé au-dessus de l'autorité de la Bible. Et alors, en général, au lieu qu'on ajoute à la Bible, comme avec l'illuminisme ou avec le magistère institutionnel, on retranche plutôt à la Bible, selon cette troisième voie. Mais c'est aussi grave. Ajouter ou soustraire, finalement, ça revient au même. Et l'interdiction qui est faite dans la Bible même, à la fin de l'Apocalypse, c'est très clair, c'est aussi bien d'ajouter que de retrancher que d'ajouter. Selon la troisième voie, donc, il y a de nouveau surélévation d'une autorité qui en pratique au moins se surimpose à l'autorité biblique et prive celle-ci de son exercice normal. Alors la part de vérité, bon, c'est d'une part que nous avons, voyez, à exercer notre jugement, comme je l'ai déjà dit, et puis que dans l'étude de la Bible, dans l'effort pour la comprendre, nous avons à exercer notre raison. Je vous parle comme à des hommes intelligents. Nous avons une faculté d'intelligence que Dieu lui-même nous a donnée, que le Saint-Esprit régénère, libère des mensonges, des rudiments du monde, de la sagesse selon le monde, et nous avons à la mettre en œuvre, ça c'est vrai. Et trop souvent, les chrétiens évangéliques l'ont oublié. Mais subordonnée, soumise à l'autorité de la Bible elle-même, recevant le sens que Dieu a défini et le laissant régner dans l'esprit humain. Et alors là, on en arrive à la quatrième voie, celle qui, je pensais juste, qui a été formulée d'ailleurs par Luther lui-même, pour que nous honorions vraiment la démarche de Dieu qui nous a parlé, le guide pour l'interprétation et la compréhension de l'Écriture, ce ne peut être que l'Écriture elle-même, la Bible elle-même. C'est la parole de Dieu et il faut qu'elle-même nous apprenne à bien la comprendre quand nous la lisons, quand nous l'écoutons sous la forme orale. L'Écriture interprète d'elle-même. Je crois que c'est la seule voie qui reste pour que l'autorité de la parole de Dieu comme telle ne soit pas entamée, étouffée, mise de côté. Mais alors là, deuxième partie de ce que j'ai à vous présenter, la question se pose, mais comment l'Écriture alors nous guide-t-elle? Comment l'Écriture elle-même va-t-elle nous apprendre à bien la comprendre? Ça paraît la quadrature du cercle. Pour comprendre ce que la Bible éventuellement peut me dire sur la manière de la comprendre, il faut que je la comprenne. Alors, comment commencer, vous voyez? Pour saisir la manière dont la Bible va me guider, il faut déjà que je sache bien la comprendre. Alors, c'est le cercle vicieux, on a l'impression de ne pas pouvoir en sortir. Voyez, c'est ça la difficulté qu'il faut résoudre. Et je pense que traditionnellement, on n'a pas très bien su répondre. On a eu deux réponses principales, qui sont justes, mais qui ne vont pas jusqu'au fond des choses, à mon avis. On a dit, la Bible nous apprend comment l'interpréter quand elle se cite elle-même. Quand nous voyons les textes de l'Ancien Testament repris dans le Nouveau et interprétés par le Nouveau. Alors c'est vrai que ça nous aide beaucoup, que c'est un point très intéressant. Il y a des difficultés aussi d'ailleurs. Je pense que la fois prochaine, je prendrai un exemple de difficulté dans ce secteur. Mais surtout, ça ne peut pas être la réponse globale à la question, parce que comment allons-nous bien comprendre ce que dit le Nouveau Testament sur le passage de l'Ancien? Il faut que nous ayons déjà de bons principes d'interprétation pour bien comprendre le traitement que le Nouveau donne à l'Ancien. Donc ce n'est pas la réponse finale. Deuxième réponse qui a été celle qu'on a donnée le plus fréquemment, c'est par la comparaison de tous les textes bibliques. En éclairant chaque passage particulier par tous les autres, en recourant à ce qu'on a appelé l'analogie de la foi, en circulant sans cesse dans toute la Bible, pour éclairer les passages un peu obscurs par ceux qui sont plus clairs, les passages qui parlent d'un sujet par les autres qui parlent du même sujet, qu'on peut trouver le sens de la Bible. Ce sujet de l'analogie de la foi est un sujet effectivement très important. En pratique, c'est sans doute la procédure qui va nous aider le plus à bien saisir le sens de la Bible. Et je vous signale d'ailleurs, si quelqu'un veut approfondir beaucoup, que la revue Chokma a publié il y a quelques années un article que j'ai écrit sur le sujet. Bon. Mais ce n'est pas encore la réponse dont nous avons besoin, parce que si je ne comprends aucun des textes de la Bible, faute d'avoir un guide pour la comprendre, alors je ne peux pas comparer les textes entre eux. Donc il faut trouver le principe encore plus profond, sous-jacent, à même cette activité de recherche comparée. Et je propose qu'on dise que la Bible nous guide par sa façon même de se présenter. C'est par sa façon de se présenter, qui nous touche d'emblée, que nous avons un premier déclic, en quelque sorte, qui se produit, un premier indice qui nous est donné sur la manière dont nous allons la lire. C'est pas du tout seulement pour la Bible que ça joue comme ça. Dans toute la communication humaine, la façon de se présenter joue un rôle clé. Je commence à parler à quelqu'un en anglais. Il perçoit premièrement que c'est en anglais que je parle. C'est l'auto-présentation en anglais de ma parole qui lui donne le premier indice. Ah, il faut que je cherche le code anglais pour comprendre. Ce n'est pas encore comprendre ce qui est dit, mais c'est reconnaître la manière de se présenter. Et la même chose avec les divers langages. La manière de me présenter vous permettra de savoir si je parle sérieusement ou si je suis en train de parler ironiquement, ou si c'est une blague. Façon de se présenter qui guide l'interprétation. Ça joue comme ça parfois. Vous voyez, alors là, comme ça, on évite la difficulté. Je n'ai pas encore le principe pour entrer dans le texte. Mais sa façon de se présenter me touche, c'est le premier événement. Et à partir de là, alors comment ça se passe? Ayant été touché par la façon de se présenter de la Bible, je commence à la comprendre. Oh, c'est encore assez grossier, rudimentaire. Mais du coup, je vois mieux, l'ayant déjà lu, à la lumière de son auto-présentation, je vois mieux comment elle se présente, et ce qu'elle dit d'elle-même. Et du coup, je peux revenir à elle, armé de principes d'interprétation plus aigus, et ainsi de suite. Et c'est une spirale, voyez. Chaque fois, je peux mieux la comprendre grâce à sa façon de se présenter, et l'ayant mieux comprise, je vois mieux comment elle se présente, et ainsi, je sers de plus en plus près le sens que Dieu a voulu y mettre pour moi. Je crois que c'est le principe. La Bible nous guide par sa façon de se présenter. Alors, qu'est-ce que ça donne, plus en pratique? Je suggère les grandes lignes, seulement aujourd'hui. Je suggère que la Bible se présente à nous d'une manière double. Comme une parole ordinaire et comme une parole unique à la fois. Je dis qu'elle se présente vraiment comme ça. Quand le volume nous vient avec sa présentation matérielle, c'est comme ça. Ou on peut dire quand l'apôtre arrive, si on se place dans la situation du premier siècle, puisque ça revient à ça aussi, c'est d'une manière ordinaire, comme une parole ordinaire. C'est dans la langue courante des hommes, dans la langue commune. Le Nouveau Testament est écrit dans la langue grecque commune. On dit la koiné, ça veut dire commune, en fait. C'est en abrégé la langue commune des Grecs. C'est selon les façons ordinaires de parler que Dieu s'adresse à nous par ses messagers. Dans la Bible, l'apôtre Paul qui arrive. C'est ça ce qui nous donne comme clé d'interprétation que nous allons mettre en œuvre, les façons de décoder que nous utilisons tous les jours dans les conversations interhumaines, dans la lecture des textes. Autrement, nous n'aurions pas eu le droit de le faire. Si Dieu ne nous avait pas, en quelque sorte, autorisé à le lire de cette façon, en se présentant comme parlant à la manière humaine, de quel droit aurions-nous appliqué ces façons de comprendre courantes à la parole de Dieu? Vous voyez, c'est l'auto-présentation du côté de la Bible qui met en route, en quelque sorte, l'usage des méthodes courantes d'interprétation des textes humains. Mais la Bible ne se présente pas seulement comme une parole humaine semblable aux autres paroles humaines, utilisant la langue courante, les formes de discours courantes. Elle se présente aussi comme unique. C'est écrit sur la Sainte Bible. Le prophète ou l'apôtre arrive, ainsi parle le Seigneur, le Christ parle par moi. C'est de manière unique qu'il se présente d'emblée, c'est l'auto-présentation de la Bible. Et donc, pour la lire selon la façon dont elle veut être lue, il faut aussi tenir compte de ce caractère unique. Un respect, comme nous n'avons pas besoin d'en user à l'égard des textes humains ordinaires, dont nous savons qu'ils sont faillibles. Le sens de l'unité, parce que c'est un seul esprit qui a animé tous ceux qui se présentent au nom du même Dieu. Moïse et David et Esaïe et Matthieu et Paul. Ça va impliquer que nous allons lire ces textes comme foncièrement d'accord, en harmonie les uns avec les autres. Ça va impliquer aussi que nous prierons l'Esprit de nous guider et de nous donner le sens de ce dont il s'agit, comme je l'expliquais tout à l'heure. Cela impliquera aussi, je pense, que nous ne le ferons pas, si nous pouvons au moins l'éviter, de façon isolée, sachant que cet esprit nous unit les uns aux autres, et pour que nous nous aidions mutuellement. L'activité d'interprétation est normalement une activité communautaire. Vous voyez comment ce principe de l'auto-présentation de la Bible peut engendrer la façon de lire, nous indiquer la voie à suivre pour lire la Bible. Et alors ça se précise, ça se détaille en quelque sorte de la manière suivante, et c'est ce que nous verrons plus en détail la fois prochaine, en progressant dans la découverte de l'auto-présentation de la Bible, nous verrons qu'elle utilise des genres littéraires différents. Alors c'est l'auto-présentation de la Bible, quand nous aurons bien repéré, qui nous fera dire c'est une parabole. Donc je vais l'interpréter, non pas comme quelque chose qui est arrivé en un point précis, comme de l'histoire, mais comme une illustration pour comprendre une vérité. Voyez, je reconnaîtrai le genre de la parabole par l'auto-présentation de la Bible. Et du coup, j'interpréterai d'une manière correspondante. C'est aussi dans cette même ligne que nous aurons à voir les problèmes qui surgissent lorsqu'il y a des apparences de contradiction. J'ai dit la présentation de la Bible unique, et très vite nous découvrons que ça veut dire qu'elle est la parole de Dieu par le même esprit, que cette présentation implique l'harmonie de tout ce qui est enseigné. Mais il faut reconnaître que parfois, cette harmonie, nous ne la voyons pas. Que nous avons l'impression que là, il y a deux choses qui sont en désaccord. Alors, comment faire? L'auto-présentation de la Bible va nous guider. Nous renoncerons à dire tout de suite, c'est que ça se contredit, alors. Je vois que c'est une erreur. Non, je fais confiance à mon Seigneur. Je cherche à voir comment ces choses qui paraissent opposées ne le sont pas en réalité. Oui. Nous serons guidés par cette auto-présentation de la Bible. Alors nous verrons donc la fois prochaine au moins quelques exemples où ces grands principes que nous avons aujourd'hui survolés pourront être appliqués. Alors il reste juste quelques minutes avant la demi, qui est notre heure de fin habituelle. Si quelqu'un a une question, une remarque... Oui, mademoiselle Ramzani. Alors, je n'ai pas entendu tout à fait la fin. Comment, en tant que baptiste? Comment, en tant que baptiste, nous pouvons nous situer par rapport aux autres courants évangéliques qui existent? Je vais essayer de répondre en rapport avec l'interprétation de la Bible plus spécialement. Je dirais qu'en... En rapport avec l'interprétation de la Bible, nous devons principalement percevoir notre solidarité. La différence d'interprétation sur ce sujet particulier, qui n'est pas négligeable, n'est pas une différence d'approche globale de la Bible. Ce ne sont pas quand même les grands principes de l'étude biblique qui nous différencient. Et du coup, je crois que nous pouvons dire que pour l'essentiel, nous lisons la Bible de la même façon que les autres évangéliques, ceux même qui ne sont pas baptistes, et que c'est là la note dominante. Alors on pourra chercher à raffiner la différence principale avec les défenseurs du baptême des petits-enfants, que nous ne croyons pas biblique, concernera une structure qui intervient assez loin dans le travail de spirale que j'ai évoqué tout à l'heure, qui concerne la structure de l'Alliance, le rapport de l'Ancien et du Nouveau Testament. Là, ça leur sert effectivement d'outil d'interprétation pour la compréhension de la Bible, à un certain stade de leur progression, et je crois que c'est mal construit. C'est là que je discuterai avec eux, qu'ils ne seront pas tout à fait d'accord. Oui, monsieur Sidamon.
Vous avez employé le mot moderniste et postmoderniste.
Oui.
Je n'ai pas très bien compris ce que vous entendez par postmoderniste. C'est la première question.
Oui. Oui, si vous voulez, oui, oui.
Vous parlez d'auto-présentation de la Bible.
Oui.
D'accord, pour tous ceux qui sont croyants, nous souscrivons à ce que vous avez dit. Mais quelqu'un d'extérieur, par exemple, qui lirait aussi le Coran, il révèle aussi l'auto-présentation, il y a une très belle prière,
par exemple, il y a
le Coran. Alors, comment
répondre à ces deux questions? La première question, j'ai employé les adjectifs modernistes et postmodernistes tout à l'heure. Postmoderniste, c'est un mot qui commence à circuler assez largement, mais qui est récent, qui, en tout cas, pour caractériser les mentalités et certains courants philosophiques ou théologiques, ne date que des années 70 en pratique. Il a été utilisé antérieurement quant à l'art, quant au mouvement de l'art contemporain, ça c'est plus ancien, mais comme je l'emploie, c'est plus récent, parce que ça se rapporte aux tendances de la culture, des milieux intellectuels, etc. Il s'agit de tendances qui inversent certaines des insistances de ce qu'on a appelé modernisme, en particulier l'insistance sur la discipline rationnelle, sur une vue unifiée des choses. Le postmodernisme représente une inversion sur certains points de ces tendances de la modernité. C'est la pluralité, une pluralité dans tous les sens qui est exaltée. Il n'y a pas une raison, il n'y a pas un sens. Et en théologie en particulier, il n'y a pas une vérité. Ça, c'est typique d'une mentalité assez nouvelle qui s'appelle volontiers postmoderniste. Je crois pour ma part que c'est le fruit du modernisme, qu'en fait, c'est le prolongement, même s'il paraît y avoir un renversement, et que c'est encore plus pernicieux. Il y a certains certains avantages, mais c'est donc une tendance assez forte. Il y a eu des articles dans Fac Réflexion, j'en ai écrit, qui ont porté sur ce sujet, les derniers soubresauts de la pensée humaniste. Je traite un peu du postmodernisme, et d'ailleurs je propose qu'on dise plutôt, mais je ne l'ai pas fait aujourd'hui, mais moderniste post que postmoderniste, pour bien montrer que c'est la continuation du modernisme ou de la modernité. Mais c'est ça, j'ai voulu le mentionner parce qu'aujourd'hui, vous auriez des gens qui, après m'avoir entendu, si je n'avais pas prononcé le mot, diraient « mais il est plus à la page, la modernité c'est fini, maintenant c'est la postmodernité ». Alors, ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, donc, concerne l'autoprésentation, par exemple, du Coran, d'autres écrits qui se prétendent aussi uniques. Alors là, je dirais que nous avons à tenir compte de l'autoprésentation pour comprendre, mais que c'est bien sûr la différence de l'engagement de foi qui fera que nous recevrons l'autoprésentation de la Bible comme la vérité ultime sur elle-même, et que nous dirons que pour le Coran, c'est comme ça qu'il se présente, qu'il veut être compris, mais que nous ne croyons pas qu'il est authentiquement ce qu'il prétend être. Alors là, ce n'est plus une question d'interprétation, de compréhension à proprement parler, c'est le jugement de vérité. Et le débat sur ce point, pourquoi la Bible et pourquoi pas le Coran, relève de l'apologétique. Ce n'est pas le sujet que nous traitons ensemble sur le guide pour l'interprétation. Moi, j'ai présupposé la foi chrétienne, l'engagement de foi chrétienne, que nous avons discerné cette vérité du côté de Jésus-Christ, et non pas de Mahomet. Mais alors, si on veut débattre de ce point-là, c'est un autre sujet, on peut en débattre. Cela ressortit davantage à l'apologétique que dans les termes classiques. On pourra peut-être, dans la suite des instituts bibliques, venir à un sujet de ce genre aussi, mais c'est pas le sujet présentement étudié. Bon, je pense que l'heure est arrivée. Je voulais aussi vous dire qu'il y a un livre facile et intéressant sur le sujet qu'on peut lire. C'est celui de Monsieur Alfred Kuhn, « Comment interpréter la Bible ?», qui est assez récent. Alors, il est facile à lire et il est en même temps très utile, très équilibré. Donc, du point de vue de la bibliographie, je vous indique ce livre-là. Et puis, je vous transmets aussi les salutations du pasteur Joël Richert. Je l'ai vu hier à Lyon et donc je suis chargé de ses salutations pour notre Église.